Alors, mine de rien, ce sont plus de 75 000 entrepreneurs qu'on a touchés à travers le temps, Antoine, depuis 2001, à travers tous nos différents services. C'est toujours une grande fierté de voir, d'ailleurs, que notre écosystème entrepreneurial se transforme.
Mon nom est Antoine Gagné et je vous souhaite la bienvenue au 118e épisode du podcast Hypercroissance. Avant d'écouter l'épisode d'aujourd'hui, je vous invite à vous abonner sur Spotify, Apple Podcasts ou sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié des nouveaux épisodes qui arrivent tous les lundis et jeudis matin. Également, l'épisode d'aujourd'hui est présenté et produit par G7 Media, une agence de publicité Facebook. En gérant fièrement plus de 30 millions de dollars de publicité Facebook à l'année, G7 Media aide depuis 9 ans maintenant les entreprises à accélérer leur croissance via l'entremise de la publicité Facebook et Instagram. Si vous désirez être au courant des meilleures pratiques dans l'industrie en ce qui concerne la pub Facebook, je vous invite à écouter le podcast Social Selling qui est mis en ligne tous les mercredis matin. L'équipe de G7 Media vous livre chaque semaine des études de cas réelles qui vont pouvoir vous aider à améliorer les performances de vos campagnes. Avec plus de 30 millions de dollars en financement octroyé et 1200 entreprises accompagnées depuis 2001, on peut dire que Famous aura eu un impact assez impressionnant sur la communauté de femmes d'affaires du Québec. Maintenant, soucieux de faire évoluer leur approche et ainsi aider un plus grand nombre de personnes, l'organisation a décidé de revoir son identité dans la dernière année et de maintenant se présenter sous le nom de Evol. L'organisme qui accompagne désormais les entreprises à propriété diversifiée est maintenant piloté par Séverine Labelle, qui est notre invitée du jour. Dans le dernier épisode à paraître pour l'année 2021, on aborde avec Séverine des sujets d'actualité comme la diversité dans la gouvernance, les raisons derrière le repositionnement de Femmes Essor ainsi que la vision de l'entreprise pour les années à venir. Également, j'aimerais dire au nom de toute l'équipe de Hypercroissance qu'on est excessivement heureux de vous avoir vu autant nombreux lors de la dernière année. Sans plus attendre, le dernier épisode de 2021 avec Séverine Labelle. Séverine Labelle, vous êtes la présidente et directrice générale de Evol, anciennement Famessor, une organisation qui aide au financement des entreprises à propriété diversifiée et inclusive, qui génère également un impact positif sur la société. Depuis son lancement en 2001, Evol a octroyé plus de 31 millions de dollars en financement à plus de 1200 entreprises pour générer un total de 185 millions de dollars en retombées. Séverine Labelle, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui.
Ben, merci pour cette belle invitation.
Et Séverine, je commencerai avec une question super simple aujourd'hui. Peux-tu expliquer concrètement à notre audience ce que votre entreprise fait au jour le jour pour aider nos belles entreprises québécoises?
Absolument. Alors, Evol, en fond, on est une organisation qui offre du financement et de l'accompagnement pour les entreprises qui sont détenues et dirigées par des personnes donc, qui sont en situation de sous-représentation en entrepreneuriat. Alors, on vise spécifiquement les femmes, les personnes racisées, les personnes immigrantes, les membres Premières Nations Inuits, les membres de la communauté LGBTQ, LGBTQ2+, merci, et les personnes handicapées. Alors, ce qu'on offre concrètement, c'est du financement sous forme de prêts conventionnels qui peut aller de 20 000 $ à 450 000 $ avec une période d'amortissement de 2 à 8 ans et des possibilités d'obtenir des conditions intéressantes, des moratoires, par exemple, soit au début ou au courant de l'entente de financement. Et également, dans le fond, on souhaite que les entreprises, pour avoir accès à notre financement, elles doivent être aussi en mesure de démontrer leur intention ou leur capacité réelle à générer des impacts positifs pour la société et des impacts qui sont alignés avec les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Donc, être en mesure de démontrer une capacité à contribuer à au moins un de ces 17 objectifs-là. Et avec notre financement, vient toujours un parcours d'accompagnement. En fait, chez nous, on dit qu'on fait du financement accompagné. Alors, toutes les entreprises financées bénéficient d'une offre d'accompagnement qui est complètement personnalisée, basée sur leurs besoins spécifiques. Ça débute avec un diagnostic des compétences entrepreneuriales, qui nous amène ensuite à développer un plan d'action personnalisé, des rencontres de suivi individuelles, une banque d'heures aussi pour la consultation auprès de notre brigade conseil et un accès à différentes activités de formation. Un parcours d'accompagnement qui a fait ses preuves puisque près de 80% des entreprises qu'on finance sont toujours en activité après 5 ans.
C'est un beau carnet de route que vous avez là. Puis, Séverine, je continuerai la discussion en voulant aborder un thème précis, votre nom. OK? Parce que souvent, une entreprise, quand elle évolue, va ajuster sa vision et sa mission, surtout quand ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on est en affaires. Et quand on évolue notre mission, notre vision, on peut des fois penser à un rebranding ou encore un changement de nom. Est-ce que c'est pour cette raison-là que Femme et Sœur a changé de nom? Est-ce que votre mission s'est changée, a changé? Est-ce que vous avez un spectre de clientèle plus vaste que vous pouviez avoir avant? Est-ce que c'est un petit peu ce qui s'est déroulé ici?
Tout à fait. En fait, Femme et Sœur, qui a été créée à notre tout premier fonds spécialisé pour les femmes en entrepreneuriat, a été créé en 1995. À partir de 2001, le gouvernement nous a soutenus et puis c'est là où vraiment le Femme et Sœur qu'on a connu dans les dernières années s'est vraiment développé avec la mission de contribuer au développement de l'entrepreneuriat féminin. Donc vraiment de s'assurer qu'il y ait plus d'entreprises à propriété féminine au Québec pour aussi créer une économie qui est plus inclusive. Et puis, dans les dernières années, on a souhaité aller plus loin parce qu'on a réalisé que d'autres populations rencontraient des obstacles similaires et ne développaient toujours pas leur plein potentiel au sein de notre société. Et c'est dans ce contexte-là que depuis le printemps dernier, on a annoncé qu'on élargissait l'accès à nos services à l'ensemble des populations qui sont en situation de sous-représentation. Et dans ce contexte-là, effectivement, puis pour mieux illustrer ce nouveau pilier-là, donc une population plus diversifiée, mais également un pilier d'impact qu'on a ajouté parce qu'on s'est aussi donné cette responsabilité-là de contribuer à créer un monde meilleur, de contribuer à créer une économie qui est plus verte, plus durable.
Bien sûr.
Donc, pour vraiment illustrer ces deux nouveaux piliers-là, je pense que c'était essentiel d'aller vers un changement d'identité. Alors, on est allé chercher l'aide de Cossette pour y parvenir. Donc, c'est dans ce contexte-là que Femme et Sœur est devenue Evol. Evol, qui est un mot inspiré des termes évolution et envol, qui représente bien d'ailleurs notre volonté de faire avancer la société de façon positive autour de 3 priorités, en fait, l'économie, l'écologie et l'équité. Et ça reflète également notre ambition de voir les entrepreneurs évoluer et évoluer dans cette nouvelle direction qu'on souhaite, plus soucieuse pour les humains, plus soucieuse pour l'environnement. Et en terminant, je dirais tout simplement qu'on a un beau logo qui est dessiné sur une pente ascendante qui traduit bien ce principe d'élévation qu'on souhaite voir collectivement.
Il y a des belles personnes qui sont impliquées là-dedans. Donc, il y a Madame Henkel qui est votre porte-parole.
Oui.
Je pense que la personne qui est en charge du projet, ou du moins qui a dû piloter une bonne partie du projet chez Cossette, c'est Chris Bergeron qui fait clairement partie du regroupement un petit peu de gens que vous voulez représenter à travers le temps. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'il y a beaucoup de personnalités québécoises connues qui s'associent à Evol. Donc, toutes mes félicitations par rapport à ça. Et je continuerai, Séverine. T'en as discuté un petit peu en introduction, mais j'aimerais juste pour essayer de bien situer l'audience aujourd'hui. Donc, bien entendu, vous offrez du financement, vous offrez également de l'accompagnement. Est-ce que ces deux volets-là sont continuellement inclus dans votre offre de service, si on peut le dire ainsi, ou des fois, certains entrepreneurs vont uniquement prendre le financement, vont uniquement prendre des services d'accompagnement avec vous? Comment ça se déroule un petit peu? Comment ça se matérialise un travail avec Evol?
Bien, peut-être une chose importante pour nous, avant de parler peut-être un peu plus de processus, c'est l'approche. Je pense que les clientes et les clients qui font affaire avec nous sont assez d'accord pour dire que notre approche est très axée sur des valeurs humaines, des valeurs de bienveillance, d'empathie. On accompagne des entrepreneurs dont certaines ont vécu différents obstacles, ont vécu parfois des billets, se sont fait parfois refuser leur projet, etc. Donc, on a cette volonté-là d'avoir une très, très bonne écoute et de partir des besoins de l'entrepreneur pour bien là où le guider à travers notre offre de service. C'est certain que notre core, c'est le financement accompagné, donc un accompagnement individuel qui est offert à tous les entrepreneurs financés par nous. Mais à travers le temps, on a aussi développé d'autres services pour pouvoir répondre à une plus grande partie des entrepreneurs qui n'ont peut-être pas encore besoin de financement ou qui ont besoin d'aide en amont de préparer ce projet de financement-là. Alors, on a par exemple des ateliers conseils, des formations, on a des événements de réseautage et d'inspiration où on veut mettre de l'avant des modèles d'entrepreneurs qu'on voit moins, mais qui devraient normalement être plus connus parce qu'elles sont tellement inspirantes. On a également des cellules de co-développement pour aider les entrepreneurs à se développer entre elles ou entre eux. On a des services conseils qui sont déployés par des experts de tous les domaines d'activité. On en a plus de 150 à travers le Québec qui ont accepté d'offrir du temps pro bono pour les entrepreneurs. Alors, mine de rien, ce sont plus de 75 000 entrepreneurs qu'on a touchés à travers le temps, Antoine, depuis 2001, à travers tous nos différents services. C'est toujours une grande fierté de voir, d'ailleurs, que notre écosystème entrepreneurial se transforme. Puis, j'ai envie de dire que je pense qu'à force de travailler dans cette direction-là avec nos partenaires du terrain, parce qu'on a aussi tout un écosystème qui nous entoure, bien, on réussit, je pense, à créer ce changement-là qu'on veut voir.
Vous êtes comme un incubateur un peu, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous êtes capable de financer, vous accompagner, vous êtes capable de mettre ensemble des gens. Donc, c'est assez intéressant l'approche là, de Evol maintenant, anciennement Femme Essor. Et j'aimerais discuter un peu avec toi, Séverine, de diversité, parce que je pense que ça fait partie même de votre organisation, de ce que vous représentez, de ce que vous défendez. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches avant le podcast là-dessus pour essayer de comprendre un petit peu l'état de la situation présentement au Québec sur la diversité en entreprise, la gouvernance des organisations. Et j'ai trouvé certains articles assez intéressants que j'aimerais amener à ton attention plutôt et amener également à l'attention de l'audience. Donc, dans un article de La Presse sorti à l'été 2021, d'ailleurs, on mettra un lien dans les notes du podcast pour que les gens puissent s'y référer, le vice-président principal des services français, M. Michel Bissonnette, disait que minimalement 22% des embauches cette année dans son département doivent être des gens issus de la diversité. Si le 22% n'est pas atteint, ça affecte la bonification de tous les cadres de l'entreprise. Donc, je le répète, ça affecte la bonification de tous les cadres de l'entreprise, ce n'est pas rien. Il a même demandé d'être la personne directement impliquée dans le processus de recrutement afin de montrer toute l'importance qu'il y porte. On parle de Radio-Canada ici. J'amène ce contexte à tes yeux, Séverine, avec une question en tête. Qu'est-ce qui a changé dans la tête des décideurs québécois afin de porter autant d'importance à la diversité en 2021?
Il y a plusieurs choses. Je pense que ça fait quand même plusieurs années où on met de l'avant de plus en plus la richesse d'être diversifié autour d'une table. Puis il y a quand même eu des ambassadeurs, des ambassadrices de taille qui ont porté ces messages-là. Je pense juste à Michelle Obama qui, je me souviens très bien, qui a dit dans une conférence à Montréal, que j'ai eu la chance d'animer d'ailleurs, où elle disait « Si vous êtes toute une table, autour de la table, des hommes blancs avec les cheveux gris, il y a un problème. Puis vous allez nuire à votre potentiel de développement, vous n'allez pas chercher des jeunes, des gens colorés, d'autres personnes qui ne vous ressemble pas autour de la table. » Je pense que ces messages-là, qui sont aussi appuyés par différentes études maintenant, qui démontrent clairement que les entreprises les plus diversifiées au sein de leur équipe de gestion, au sein de leur conseil d'administration, sont aussi souvent les plus performantes, celles qui ont un plus grand impact de point de vue responsabilité sociale, qui ont un plus grand retour sur investissement ou là où il y a le plus d'innovation. Donc ça, je pense que ça fait du chemin. Et puis c'est certain que je pense que le climat de la pandémie a aussi permis de ramener à l'avant-plan les inéquités sociales, les inégalités sociales, puis l'envergure du travail qu'on a encore à faire pour une meilleure inclusion de tous les visages qui composent notre société. Donc, je pense qu'il y a un mix des deux qui fait en sorte qu'aujourd'hui, les grands leaders prennent des décisions comme celle que tu as mentionnée, Antoine, de dire, ben, non seulement on ne va pas juste parler de l'importance de la diversité, mais on va se donner des cibles, on va se donner des objectifs concrets, puis on va suivre l'atteinte de ces objectifs-là comme on suit les autres objectifs.
Puis maintenant, Séverine, j'aimerais peut-être me faire l'avocat du diable ici, parce que si on lit bien l'article, c'est assez intéressant, on montre un petit peu le revers de la médaille. Dans le même article que j'ai mentionné un petit peu plus tôt, certaines personnes interrogées disent que si les entreprises prennent des actions du genre que pour faire un coup de relations publiques, ça ne pourra pas fonctionner et perdurer à travers le temps pour eux. Crois-tu que ça peut être le cas en ce moment pour des entreprises au Québec de prendre l'avenue de la diversité simplement pour avoir une bonne conscience et bien paraître?
Je pense que c'est un piège qu'il faut absolument éviter parce que ça finit par nous retomber sur le nez si ça vient pas de convictions réelles et profondes puis que ça vient pas avec une volonté sincère de faire les choses autrement. C'est important quand on s'engage dans cette voie-là, tout comme quand on s'engage dans la voie de l'impact, de le faire avec conviction puis de prendre des moyens concrets. Il faut, tu sais, walk the talk, là.
Bien sûr.
Tu prends des engagements, ben il faut que tu démontres clairement que tu vas poser des actions puis que ça va avoir des répercussions. Evol, on est passé à travers, on est encore dans ce cheminement-là parce que nous-mêmes, notre équipe était très peu diversifiée. Antoine, on était une équipe pratiquement que de femmes pendant toutes ces années. Quand je suis arrivée en poste, moi, il y avait un seul homme dans l'équipe, très peu de diversité ethnoculturelle. Et depuis quelques années, on a vraiment commencé à faire un cheminement, de dire, ben, je pense que c'est important, surtout pour une organisation féminine ou féministe qui prend la parole en disant, ben, les conseils d'administration les plus importants sont les conseils diversifiés. Ben, tu sais, je pense qu'il faut nous-mêmes incarner ce modèle-là. Et donc, on s'est donné des cibles, on a pris des actions. Et puis aujourd'hui, je suis très fière de dire que maintenant, 26 % de notre équipe sur le terrain est composée de personnes qui s'identifient à une des populations sous-représentées qu'on dessert, sous-représentées au plan économique. Notre conseil d'administration s'est diversifié également. On n'est pas encore parfait, mais on a pris des actions concrètes pour s'assurer d'aller chercher cette diversité-là qui, à la fin de la journée, nous rend beaucoup plus forts, beaucoup plus riches et nous permet, je pense, encore mieux délivrer notre mission au quotidien.
Et parlant d'engagement concret ici, qu'est-ce que tu dirais, Séverine, aux entreprises québécoises, on va dire les PME, donc globalement les gens, l'audience qui écoute le podcast Hypercroissance, ça va être des propriétaires d'entreprises, des hommes et des femmes, des organisations qui vont varier, on va dire, entre 10 et 50 employés, des fois plus que ça. Qu'est-ce qu'on peut leur dire en date d'aujourd'hui? Quelles actions on peut leur demander de faire pour que, tranquillement, mais sûrement, ils puissent adopter une meilleure diversité à l'intérieur de leur organisation, peut-être une gouvernance différente aussi? C'est quoi des actions concrètes que nos entreprises québécoises peuvent prendre là maintenant pour s'améliorer en ce sens?
Oui. Bien, la première des choses, je pense, c'est de se donner une vision de ce qu'on veut accomplir. Tu sais, on veut se diversifier. Pourquoi? Comment? Quel type de diversification on veut? Est-ce qu'on veut plus de femmes? Est-ce qu'on veut plus de personnes immigrantes? Est-ce qu'on veut... qu'est-ce qu'on a besoin? Qui on veut aller chercher davantage? Qu'est-ce qui nous manque au sein de notre entreprise? Donc, de poser ce diagnostic-là, de se donner une vision des objectifs, parce que ce qui se mesure peut vraiment changer. Quand on le mesure pas, bien, on le sait pas.
Si vous écoutez le podcast Hypercroissance, j'assume que vous dirigez une entreprise qui désire obtenir une croissance accélérée. J'imagine également que beaucoup d'entre vous possédez une organisation qui vend en ligne et qui désire aller chercher plus de parts de marché. Eh bien, si c'est le cas, sachez que J7 Media veut vous aider. Et la première étape pour vous donner un coup de main avec votre croissance est de diagnostiquer votre situation actuelle. Donc, si vous possédez un commerce en ligne et que vous désirez l'amener à un niveau supérieur en 2022, rendez-vous au www.j7media.com/diagnostic. Donc, je le répète, www.j7media.com/diagnostic afin d'obtenir 100% gratuitement une analyse de vos performances numériques. L'équipe qui est derrière plus de 30 millions en investissements publicitaires Facebook à l'année veut vous aider à grandir et tout se commence par un diagnostic de vos efforts actuels. Donc, je le répète, j7media.com/diagnostic afin d'obtenir une analyse 100% gratuite. De retour à l'épisode en cours.
L'autre élément, c'est de travailler avec les équipes pour, dans toute gestion de changement, c'est important d'impliquer les équipes, les rassurer aussi parce que c'est un changement qu'on apporte des fois dans la culture de l'organisation, puis c'est tout à fait normal. Il y a des personnes qui peuvent craindre pour leur propre emploi. C'est tout à fait humain de dire, ben là, ça veut-tu dire que parce que l'entreprise se donne des objectifs de diversification, que moi, je vais avoir moins d'opportunités, moi qui est une femme blanche, moi qui est un homme blanc, est-ce que je vais avoir moins d'opportunités de promotion ou autre? Donc, ce type de questions-là, les gens se les posent et c'est tout à fait humain. C'est aussi important de former. former les dirigeants, former les équipes à ce que ça veut dire la diversité, quels sont les différents types de diversité, comment est-ce qu'on peut bien inclure au sein de nos équipes, s'assurer que cette inclusion-là se déroule bien, parce que c'est une chose de vouloir recruter des gens de la grande diversité, c'en est une autre de les faire se sentir vraiment à l'aise au sein de l'équipe. C'est absolument essentiel, sinon les gens arrivent et ils vont repartir aussitôt. Et le dernier élément, je pense que tu sais, ce que je conseillerais aux entrepreneurs, c'est de s'entourer de gens qui ont peut-être passé par là. Donc, peut-être de se constituer un comité aviseur. Par exemple, nous, c'est ce qu'on a fait chez Evol, d'aller chercher des gens de la communauté qui représentent ces populations-là ou qui travaillent directement avec ces populations-là ou encore qui sont passés à travers un cheminement similaire et qui peuvent nous aiguiller, nous appuyer dans ce processus-là, nous conseiller également. Parce que, puis après, ça vient avec plein d'autres actions. On peut revoir notre stratégie de recrutement, revoir la façon dont on affiche, sur quels médias on affiche. Bref, ça comporte beaucoup de sous-actions. Mais la première, si j'ai à résumer, là, je dirais se donner une vision, des objectifs clairs, bien s'entourer à l'interne et à l'externe de personnes qui peuvent nous aider là-dedans et d'accompagner nos équipes dans ce cheminement-là.
Intéressant, fascinant même. Séverine, vous avez lancé avec Evol en mars dernier un magazine s'intitulant « 100 entrepreneurs qui changent le monde ». Vous parlez des histoires à succès de plusieurs femmes entrepreneurs au Québec. Certaines d'entre eux sont venues d'ailleurs sur le podcast, comme Marie-Josée Richer, Daniel Henkel ou encore Julie Poitras-Saunier. Peux-tu partager avec nous aujourd'hui quelques histoires à succès d'entreprises que vous avez accompagnées à travers les dernières années?
On en a tellement, puis on est tellement fiers de nos entrepreneurs. Je vais t'en parler de deux, mais on en a tout plein d'autres. J'ai envie de parler tout d'abord de Marcel Labrecque, d'une entreprise qui s'appelle Technologie Ecofix. C'est une entreprise qu'elle a fondée avec son père il y a quelques années. Puis suite au décès de son papa, bien, elle a repris l'entreprise et nous, on l'a accompagnée dans les premiers balbutiements. On lui a octroyé un de ses premiers financement. Donc, c'est une entreprise qui est située à Laval, qui a développé un système vraiment novateur là, pour le traitement des eaux usées de façon totalement éco-responsable. Elle est certifiée, d'ailleurs, éco-responsable. Elle est certifiée B Corp. C'est la toute première entreprise canadienne dans le domaine du traitement des eaux à avoir cette certification-là. Donc, Marisol est là, un parcours vraiment intéressant. Tu sais, on voit que c'est une entrepreneure qui souhaite d'abord et avant tout avoir un impact significatif sur l'environnement et la société avec son entreprise. Puis c'est ce qu'on voit d'ailleurs. Hein? Les femmes entrepreneurs qu'on a côtoyées dans les dernières années nous ont beaucoup inspirées à faire l'évolution qu'on a fait parce que chaque fois qu'on parlait avec elles, presque à tout coup, elle nous disait « ben moi, je suis partie en affaires parce que je voulais amener une différence, parce que je voulais contribuer à un monde meilleur, etc. » Bref, pour terminer avec Ecofix, c'est aujourd'hui, c'est une entreprise qui a le vent dans les voiles, qui se développe même à l'international et qui contribue finalement à rendre accessible davantage d'eau potable dans des milieux où on en a grandement besoin. Tu sais, tout comme moi, Antoine, qu'on est très chanceux au Québec d'avoir autant d'eau potable. C'est vraiment pas la même chose partout dans le monde. Une autre entrepreneur qui m'inspire énormément, c'est Céline Jupeau de l'entreprise Cotmo. Céline, qui est une architecte d'intérieur, designer de formation, elle travaillait à Paris, Beyrouth, New York, puis elle a immigré ici au Québec il y a quelques années. Elle est toute jeune. Puis en 2014, elle a fondé son entreprise qui est elle aussi certifiée B Corp, puis qui s'est donnée comme mission d'aider les entreprises à mieux communiquer leur impact en révolutionnant le secteur de la publicité puis de l'objet promotionnel. Tu sais comme moi que les objets promotionnels, c'est polluant. Souvent, c'est fabriqué en Asie dans des conditions qui ne sont pas toujours jojo pour les travailleurs. Ça crée énormément de déchets. Les gens reçoivent ça. Finalement, ça passe aux poubelles. Donc, elle a créé vraiment une entreprise qui conçoit, design finalement des objets promotionnels entièrement fabriqués ici au Québec dans des matériaux éco-responsables. Et c'est une façon aussi pour elle et pour les entreprises qui achètent ces objets promotionnels-là de poser un geste très concret en faveur de l'environnement. Puis en remettant ces objets-là, ben les personnes qui les reçoivent voient que ce sont des objets éco-responsable et donc je pense que ça contribue aussi à éveiller les consciences. J'aime beaucoup cette entreprise-là qui, encore une fois, a connu une belle croissance et qui nous inspire énormément chez Evol. On est très fiers de nos entreprises. On en a plus de 400 dans notre portefeuille actuellement, donc tu sais, c'est difficile de toutes les nommer, mais on en a partout au Québec. Tu sais qu'on a 17 bureaux à travers le Québec. C'est formidable, c'est vraiment inspirant de travailler avec elle au quotidien. Elle et lui maintenant, parce qu'on dessert aussi maintenant des hommes.
Effectivement. On s'est bien dit. Je pense vraiment que vous avez votre place. Vous avez une mission qui est comprise de tous. C'est inspirant de vous voir aller puis de voir des belles histoires entrepreneuriales comme ça. Puis, peut-être, Séverine, avant de passer à des questions un petit peu plus personnelles, j'aimerais t'entendre un petit peu. Donc, il y a eu un changement de nom. Il y a eu un rebranding cette année. Quel est le futur de Evol dans les 5 prochaines années, disons?
Ben, je pense qu'on est promis un futur radieux. Quand je regarde nos 5 dernières années, ben, on a connu une hyper croissance. On a triplé nos fonds d'investissement. On a plus que doublé notre équipe. Tout ça dans un temps très, très rapide. Et surtout, on est allé chercher des partenaires de taille qui nous accompagnent maintenant puis qui vont certainement nous accompagner dans notre prochaine phase de croissance. Donc, j'anticipe une continuité de notre croissance dans les prochaines années. Puis pour moi, quand je pense à notre prochaine, justement, ces prochaines phases de croissance-là, je vois beaucoup de potentiel pour Evol à l'international, à l'extérieur du Québec. On a un modèle qui est unique au Canada, puis assez unique au monde aussi, parce que dans notre transformation, on a fait beaucoup de recherches sur qu'est-ce qui se faisait ailleurs sur la planète. Et on est certainement l'une des organisations les plus avancées qui, en tout cas du moins, qui sont connus sur la toile, là, sur l'Internet. Et je pense que les pays en développement, notamment, mais même les pays déjà développés, auraient tout avantage à miser davantage sur le potentiel entrepreneurial de leurs femmes, sur le potentiel entrepreneurial des populations immigrantes, des populations racisées. C'est un formidable levier de création de richesses, d'inclusion sociale et, on va le voir maintenant, de transformation environnementale aussi. Et on a développé tellement d'outils, tellement d'expertise à travers les 25 dernières années que je nous sens prêts à peut-être accompagner des organisations ailleurs dans le monde qui ont envie d'instaurer un modèle un peu comme le nôtre.
Avez-vous un plan déjà en place pour une personne internationale ou c'est dans les premiers balbutiements?
On y travaille.
J'imagine que ça doit être un projet que vous devez avoir beaucoup de planification avant de se rendre là, parce que là, avec un rebranding, un changement de nom, il y a peut-être des chats à fouetter avant tout ça.
Oui, c'est important d'abord de solidifier ce qu'on a construit dans les derniers mois. Cette année-ci est une année de consolidation importante, mais c'est une année de consolidation pour mieux repartir par la suite. Ça, pour moi, c'est assez clair.
Je passerai, Séverine, sur des petites questions personnelles. Lecture, j'aime toujours savoir un petit peu ce que mes invités lisent. Est-ce que tu es une amateur de lecture? Et si oui, peux-tu nous faire part de peut-être tes dernières lectures?
J'adore lire. C'est vraiment la lecture qui me nourrit le plus, qui m'inspire plus que n'importe quel autre médium. J'ai lu beaucoup de livres dans les derniers mois, mais parmi mes préférés, là, je dirais un que tu dois sans doute connaître par cœur, qui est le livre « Scaling Up » de Vern Harnish, que je n'avais pas lu encore, puis que j'aurais donc souhaité lire il y a quelques années déjà, mais qui me permet encore aujourd'hui de bien structurer, qui m'inspire à mieux structurer, je dirais, la croissance de notre organisation. Également, le livre « Impact » est seulement disponible en anglais, malheureusement, de Sir Ronald Cohen, qui est vraiment une sommité dans le milieu de l'investissement d'impact à travers le monde. Puis qui, dans ce livre-là, c'est tellement inspirant parce qu'on voit vraiment comment le financement d'impact, comment comme investisseur, on peut transformer notre économie en choisissant d'investir dans des entreprises qui ont un impact positif. Et je nommerais aussi le livre de ma porte-parole, Daniel Henkel, « Quand l'intuition trace sa route », que j'ai relu cet été parce que, tu sais, on travaille tellement étroitement ensemble, j'avais envie de me replonger dans sa vie. La première fois que je l'avais lu, je ne la connaissais pas encore à l'époque. Je trouve tellement son parcours inspirant. J'aime beaucoup lire des biographies. Je trouve ça toujours... je trouve que ça nous permet de porter un regard sur notre propre parcours, puis de s'identifier à ce que ces personnes-là vivent. Puis bref, je lisais ce livre-là, puis j'étais juste encore plus fière d'avoir Daniel Henkel comme porte-parole de notre organisation.
Ah, elle déplace des montagnes, cette madame Henkel. C'est assez impressionnant qu'on la suit. Avec tous les changements qui ont été faits, elle est rendue avec Henkel Media, elle a encore son organisation, certes, mais elle est, on dirait, sur tellement d'endroits en même temps au niveau affaires au Québec. Là, c'est assez fascinant de la suivre.
Et elle inspire tellement d'entrepreneurs, hommes et femmes.
Ah oui, c'est certain.
Et elle les inspire dans une voie, tu sais, vers l'authenticité, la bienveillance, l'impact, l'inclusion, avec des valeurs, tu sais, qui, moi, en tout cas, me paraissent importantes dans le milieu des affaires aujourd'hui. Donc, c'est vraiment une change maker importante, notre Danielle Henkel.
Ah, définitivement. Une chance qu'elle a été à l'œil du dragon 2012, parce que je sais pas si elle aurait eu cette exposure-là, sinon, mais ça a été un excellent concours de circonstances. Une autre question que je te poserais, Séverine, est-ce que tu écoutes un peu des podcasts?
Oui, j'adore les podcasts parce que je trouve ça toujours, tu sais, moi, là, passer l'aspirateur, je trouve tellement que c'est une perte de temps. Mais quand j'écoute un podcast en même temps, tout d'un coup, ça me dérange pas de la passer dans tous les petits raccoins.
Bien sûr.
Mais j'écoute plusieurs podcasts. Celui au Québec que j'aime énormément, c'est Brave Inspiration, un podcast qui a été créé par mon amie, une entrepreneure que j'admire beaucoup, Marie-Josée Gagnon, qui met de l'avant, dans le fond, des femmes qui ont du cran, des femmes qui ont passé à travers des vies parfois remplies d'obstacles, puis de défis, mais qui en ont fait ressortir plein de belles choses. C'est extrêmement, extrêmement inspirant. J'aime aussi beaucoup plus côté anglophone, puis là, je change de registre un peu, mais c'est le podcast s'appelle The Exam Room. C'est un podcast qui a été créé par The Physician Committee for Responsible Medicine. Ça parle énormément de l'alimentation, puis l'alimentation comme façon de protéger notre santé, de vieillir en santé, d'aller chercher toute l'énergie, puis comme dirigeante d'entreprise, ça n'en prend beaucoup d'énergie. Puis je dis souvent que je pense que je ne serais pas capable de faire tout ce que je fais si ce n'était pas de l'alimentation que j'ai choisie. Mais d'écouter ce podcast-là me rappelle puis me donne beaucoup de données. C'est un sujet qui me passionne. C'est important aussi d'écouter des choses qui nous sortent un peu de notre quotidien du travail.
100% d'accord avec toi. Et peut-être je terminerai, à quoi ressemble, parlant de quotidien, à quoi ressemble la routine de Séverine le matin, pendant le travail, également peut-être après le travail?
J'ai pas tant de routine pendant et après, mais j'ai vraiment une routine très spécifique le matin. En fait, je fais partie de celles et de ceux qui croient que l'avenir appartient à ceux et celles qui se lèvent tôt. Alors, je me lève tôt avant le lever du soleil, généralement autour de 5h, 5h30. Je prends toujours un moment de silence avec mon latte de soya, je ferme mes yeux, puis juste contempler le moment présent dans le calme. J'écris aussi comment je me sens, les priorités du jour. J'écris ça pourquoi j'ai de la gratitude. Je pense que de se rappeler à tous les jours pourquoi on est reconnaissant, ça nous aide à partir la journée du bon pied. Et 30 minutes de yoga. Souvent du power yoga, c'est mon moment d'exercice de la journée. J'ai une vie vraiment occupée, puis je trouve que je manque de temps pour faire de l'exercice. Donc, je le fais une des premières choses que je fais en me levant le matin. Puis ça m'aide encore une fois à partir du bon pied. Puis je finis ça en beauté avec un bon smoothie. Mon déjeuner préféré à base de fruits, légumes, de l'eau, après la journée lancée. Puis là, je sais pas toujours ce qui m'attend. J'ai pas toujours du contrôle sur mon horaire de la journée. Mais celle du matin, par contre, j'en ai un peu plus.
Mais au moins, là, il y a du sport qui a été fait. Il y a les idées sont au bon endroit parce qu'on a pris le temps un petit peu de planifier tout ça. Donc, c'est toujours une bonne chose de faire ça le matin. Séverine, je terminerai en te posant une question. Comment qu'on peut aider Evola aujourd'hui? Donc, il y a des gens qui nous écoutent. Il y a peut-être des partenaires potentiels. Il y a peut-être des clientes également potentielles et clients maintenant, comme tu l'as dit. Comment qu'on peut donner un coup de main à Evola? Comment l'audience des pères croissance aujourd'hui pourrait peut-être vous donner un coup de main?
Mais j'ai envie de dire, si vous connaissez ou que vous êtes vous-même un entrepreneur qui s'identifie à un des groupes que j'ai nommés tout à l'heure et que vous avez envie, avec votre projet d'entreprise, de créer quelque chose qui va avoir des retombées positives pour la société, appelez-nous. Appelez-nous tout simplement ou écrivez-nous. On a envie de vous connaître, on a envie de voir de quelle façon on peut vous aider. Puis si vous connaissez quelqu'un, n'hésitez pas à nous les référer. Ça arrive très souvent que les gens, des amis autour de moi, des gens m'appellent, me réfèrent. Puis des fois, l'entrepreneur n'est pas tout à fait prête ou on ne répond pas tout à fait à son besoin sur le champ, mais elle revient après quelques semaines, après quelques mois. Donc, je pense que c'est la meilleure façon de nous aider, c'est de nous référer les entrepreneurs pour qu'on puisse les aider puis qu'on puisse les amener à développer leur plein potentiel puis amener leur plus belle contribution à notre société.
Merveilleux. Ben, on mettra un lien de votre site web également dans les notes de l'épisode. Je pense que c'est très important que les gens qui se sentent concernés aillent jeter un petit coup d'œil. Donc, Séverine Labelle, merci énormément d'avoir pris le temps aujourd'hui avec nous. Merci pour ce que vous faites. Je pense que vous, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt, vous avez votre place comme jamais présentement dans l'économie québécoise et ultimement, on l'espère, à l'international. Donc, on va suivre le projet de très près. Donc, merci beaucoup d'avoir pris le temps avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance. J'espère que la dernière année sur Hypercroissance vous aura fait découvrir des histoires d'entreprises qui seront vous inspirer dans votre développement d'affaires. On a l'ambition en 2022 de continuer à offrir une fréquence soutenue au podcast tout en y ajoutant un nouveau canal de contenu. Très hâte de vous en dire plus en début d'année. Également, continuez à m'ajouter sur LinkedIn. Comme je vous le dis à chaque semaine, j'adore discuter avec vous. Plus souvent qu'autrement, vous me donnez de super idées d'invités pour le podcast. Sur ce, on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Hypercroissance.